Dimanche 31. Dernier dimanche du mois du très saint rosaire. 31e dimanche du temps ordinaire. La méditation qui nous est proposée de saint François de Sales, docteur de l'Église pour la charité. Quand l'amour divin règne dans notre cœur, il assujettit royalement tous les autres amours de la volonté profonde. Et par conséquent, toutes les affections qui émane de la volonté profonde. Parce que ces affections-là, selon les lois de la nature, courent et suivent les amours qui en émanent. Et donc, le divin amour, s'il règne dans nos cœurs, les assujettit de manière royale. Il dompte l'amour sensuel. En leur réduisant à une obéissance brûlante. Il tire aussi après lui, toutes les passions sensibles et sensuelles. Parce que cet amour sacré, cette dilection sanctissime, c'est l'eau salutaire de laquelle notre Seigneur disait celui qui boira de cette eau. Que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ah non, vraiment. Celui qui aura la mort de Dieu, même avec un peu d'abondance, il n'aura plus ni désir, ni peur, ni crainte, ni espérance, ni courage, ni joie que pour Dieu. Et tous ces mouvements seront accoisés de ce seul amour de Dieu, de ce seul amour céleste. De l'amour ne vient pas de nous. L'amour vient de Dieu. Notre cœur n'est pas une source d'amour. Notre volonté profonde d'amour n'est pas une source d'amour. Au fond de notre volonté profonde d'amour, il n'y a pas. On s'impose à nous, il vient de Dieu. Hein? Et c'est un amour royal. Il dompte toutes les autres mouvements sensible ou spirituel, hein. Mais entre nous, par exemple, on peut très bien avoir l'amour de la vérité, l'amour de la nature. C'est vrai, on peut avoir tous un peu pécheurs, donc depuis le début, que se présentait à nous l'horizon de la mort, il y a l'amour de la mort. Il y a des gens qui se suicident par amour de la mort. Mais nos pères ne se sont pas suicidés. Ils se sont succédés. Ils ont mis un torrent, un océan qui descend du ciel. Et quand tu regardes vers nous, alors il déverse ses océans d'amour. Il les déverse sur nous. Ils en surabondaient, jaillir jusqu'à la fin du monde. Dieu est amour. Alors, quand par exemple, on a des enfants, on peut faire tout son possible pour qu'ils soient propres, qu'ils soient humbles, pour qu'il soit immaculé, pour qu'il soit resplendissant, pour qu'il soit beau, même pour qu'il soit chrétien. Mais on ne pense pas que quand on a des enfants, il faut avoir de l'amour pour eux. Pas de l'affection. Et pas cette fixation affective qui en fait est une avarice. Un accaparement, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon enfant. L'amour qui vient de Dieu, le fait qu'on aime ses enfants, d'un amour qui ne vient pas de notre cœur. C'est l'amour qui s'impose à nous, qui nous investit, qui établit son royaume. Il est fort cet amour. Rien, le psaume 17 qu'on a lu aujourd'hui. C'est bien ce chiffre de 17, vous savez. Le psaume 17, l'amour est fort. Et c'est solide, un rocher, une montagne. C'est une citadelle. C'est la Jérusalem dernière et glorieuse à être toute seule, concrétisée, pour irriguer les intimités profondes, éternelles de Dieu, les intimités profondes et éternelles de la création tout entière. Une citadelle. C'est un rocher dans lequel on s'engloutit comme la colombe au creux du rocher, c'est le cœur de Jésus. C'est un abri. C'est un abri. C'est une forteresse. C'est un bouclier. C'est une arme de victoire. Les huit. Et l'amour de Dieu, c'est pour le plus. On dit, Et l'amour, personnellement, moi je dirais, l'amour, ça se mérite. L'amour est un principe. croix fraternelle de l'univers, à condition que il s'envole d'une manière extatique dans l'extase, dans leur ravissement, en emporté en dehors de tout ce qui existe pour trouver dans ce qui existe à l'intérieur de Dieu, pour trouver à l'intérieur de ce qui existe à l'intérieur de Dieu, l'amour. Je sais pas, j'ai remarqué que dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a cet homme qui dit: Rabbi, maître. Alors, c'est mitzvot erad. Mitzvot berad, le premier commandement. Le premier des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Jésus lui répond, c'est quoi alors? Jésus, il répond: tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. Et regarde là, ce commandement. C'est le deuxième. Là, il y a aussi, il y a le deuxième. Les dieux sont soudés. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras celui qui est proche de toi, celui qui te fait du bien. Celui qui fait preuve de bonté envers toi. Celui qui t'aime comme toi-même. Ça fait 5. Et le je sais pas si c'est un script d'ailleurs. C'est un scribe, c'est un théologien. Il connaît l'écriture et il lui dit: oui, Rabbi, tu as dit la vérité. C'est sûr, Jésus ne peut pas nous tromper, il ne peut pas se tromper. Tu as dit la vérité. Il n'y a qu'un seul commandement, à part d'autre que lui. Dieu est un. Adonai Erad. Dieu est un. Et donc, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Il vaut mieux que toutes les offrandes, tous les sacrifices. Un coup de 4. Ouais. Alors, il n'a pas dit tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de ton prochain comme toi. Non. Il a dit, et lui dit, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta force, de ce que Jésus lui avait dit. Comme dans le Deutéronome, comme dans la Torah. Il avait dit: de tout ton cœur, de toute ton âme. Il y a l'âme qui est partie. De tout ton esprit, c'est rempli, passé par l'intelligence. Et de toute ta force. De toutes tes énergies. Ton capital de vie qui est limité, il faut l'utiliser. C'est curieux, quoi, cette différence, quand même. L'âme et l'esprit, dans la bouche du scribe, celui qui connaît à fond les Écritures, qui aime Dieu, hein. L'âme et l'esprit, il reste avec encore l'intelligence. Je vais aimer avec toute mon intelligence, mon défense. D'ailleurs, c'est pas drôle quand tu es amoureux, quand tu fais cause commune avec quelqu'un, un mariage par exemple, et il t'aime de toute son intelligence. Toute son âme, c'est différent. Et de tout ton esprit. De tout ton cœur. Tu es tellement habitué à être dans l'âme, hors de toi-même, emporté à l'intérieur de l'amour, enivrant. Que tu es tellement habitué à te. De Jésus, dans les bras de Dieu, dans les bras du ciel, dans les vastitudes angéliques, dans les intériorités où Dieu déverse l'amour à profusion et par débordement, par gloire. Tu es tellement habitué à sortir, à ne regarder que ce qui est un amour qui n'est pas le tien, qui n'y est pas en toi. Et ton prochain, il est là à cause de ça, parce que dès que tu as quelqu'un qui t'approche de toi, aussitôt, tu l'aimes parce que tu es habitué à ce ravissement. On le dit dans le langage courant, d'ailleurs, oh, j'ai été entièrement ravi par cette personne. C'était ravissante. C'était un ravissement, mais attention, tu es emporté. T'es emporté et tu viens habiter. C'est l'antienne de l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui m'aime, mon père et moi, nous viendrons chez lui établir notre demeurance. Quelqu'un proche de toi, même ton ennemi, hein, s'il est proche de toi, eh bien, il te fait du bien. Parce que dans son cœur, dans son âme, dans son intelligence, dans son esprit, il y a un amour qui est plus grand que le tien. Il y a un amour dans ton ennemi, il y a un amour qui est plus grand que celui qu'il y a dans ton cœur, dans mon cœur. Il n'y a pas d'amour. L'âme, le cœur n'est pas une sorte. C'est une force intrépide qui fait que tu peux te laisser saisir par un amour plus grand que le tien, qui est dans le cœur de l'autre. Et tu t'habitues, c'est vrai. Si tu ouvres, si le ciel et la terre, si Jésus, Marie-Joseph ouvre le cœur de celui qui est proche de toi, tu peux rentrer dans le cœur de celui qui t'est proche. Et il te fait du bien parce que quiconque est proche de toi, quel que soit l'enfant, quel que soit l'homme, il a un amour qui n'est sûrement pas à l'intérieur de ton cœur. Et il a un amour qui est plus grand que ton amour à toi. Et donc, et tu as besoin, ta volonté profonde, ta capacité d'amour a besoin d'apprendre à être ravi dans le ravissement, à être pris dans l'extase du ravissement. C'est l'âme et l'extase, c'est l'esprit. Et le vol de l'esprit fait que tu es capable de rentrer à l'intérieur de l'autre pour découvrir l'amour à l'état pur qui est ancien. Un amour que tu n'as jamais connu. Et tu es capable d'y rentrer et de venir t'y abreuver, de prendre. Pour ça, j'aime bien les Gédéons qui prennent leurs mains et qui prennent cet amour-là pour enivrer leur cœur, pour nourrir leur cœur. Parce que le cœur est une soif d'amour dans l'autre. faut aimer, hein, c'est sûr. Bon. De toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et je fais remarquer une chose, c'est que quand vous dites c'est quoi le commandement, l'invitation, je t'invite, de Dieu nous invite, il nous crée en nous invitant, il nous crée en nous inspirant, il nous crée par spiration active, le Père, et passive. Et nous sommes des êtres de spiration. Et quelle est cette invitation? Je ne sais pas si je vous posais la question, si vous savez répondre. C'est quoi l'invitation? C'est quoi le commandement de... C'est quoi cette invitation? L'inspiration. Dès la conception, hein? Notre conception, c'est une puissance, force spirituelle, d'intériorité, de vastitude, d'inspiration. Ah, on est invité par Dieu. Il y a un commandement. C'est quoi le premier? C'est quoi le commandement de Dieu? Ah. C'est sûr que je vous pose la question. Si, à force de l'avoir entendu quand même, le commandement de Dieu, c'est Shin Mem Aleph. Écoute. Ah. Conception nous fait ressembler à quoi? On n'aurait pas pensé à ça, à une oreille. On écoute, écoute. Tu existes alors, écoute. Et on a comme Marie a répondu à l'ange. Gabriel, elle a dit, je m'aime, elle a dit, je suis une même. Me voici. On traduit par me voici, on traduit en latin par fiat. Mais dans le commandement de Dieu, c'est je m'écoute. Et moi j'écoute et aussitôt, c'est je suis là. Me voici. C'est une écoute qui produit l'assimilation à l'extase, au ravissement, à l'emportement et au mariage spirituel. À l'intérieur, de la 21e lettre de l'alphabet à Chine, même dans l'océan des fécondités de Dieu. Écoute, le nom d'Elohim, la présence de Dieu, Shem Elohim, ça s'écrit comme ça. Écoute la présence et l'invitation de Dieu. Écoute-la. Écoute bien. Errad. Errad, c'est l'unique. Écoutez, dire un mot ainsi, faire un acte d'amour, être englouti, emporté, assumé, disparu, délicieusement, Écouler dans l'amour éternel de la présence de Dieu, c'est le chemin, Les trois en un, et ça donne justement la nature intérieure de la dignité de l'âme dès la conception. D'aimer le bon Dieu, d'aimer le Seigneur dans l'un, dans l'unité totale, avec tout ce qui existe à l'intérieur de Dieu, dans toutes les profondeurs de Dieu. C'est la royauté de l'enfant que nous sommes quand Dieu vient de nous créer. Et notre amour consiste finalement à faire quoi? Oui, à permettre d'être revisité, d'être visité dans une apparition et emporté dans une nouvelle conception. Et la nouvelle conception, c'est ainsi l'immaculée conception. Il n'y a qu'une immaculée conception. Conception immaculée. Rad, écoute, l'immaculée conception. Maria, Rad. Il n'y a qu'une seule créature, il y a une seule création. Il y a une seule Erad. Elle est indivisible. Avec le Erad de Dieu, le Erad de Dieu est tout intérieur. Et donc, c'est que dès qu'on aime Marie, parce qu'il n'y a personne qui et autant de bonté pour nous, autant d'amour pour nous, et qu'il nous fasse autant de bien que Marie. C'est notre prochain. Tu as aimé l'immaculée conception. Entendre l'immaculée conception. C'est vraiment ça. Le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est souvent on dit « Ah, les commandements de Dieu !» Mais non, le commandement de Dieu, c'est « Écoute. Écoute. » Le donner à c'est... Et ton prochain, comme toi-même, c'est Dieu, l'immaculée conception, lorsqu'ils sont indivisibles. Et que tu les écoutes l'indivisibilité de l'amour dans l'Immaculée Conception et en Dieu, lorsque c'est tout à fait barra, lorsque c'est une responsabilité, à ce moment-là, tu graves ça dans ton cœur et le royaume de Dieu a commencé. Et à force d'être englouti et d'habiter à l'intérieur de cet acte pur d'amour, à force il y a une transfiguration qui se fait, une agilité, une subtilité qui fait que le ravissement, l'extase, le vol de l'esprit, les trois, deviennent le monde intérieur de nos mouvements de vie pas seulement spirituelle, c'est notre mouvement normal, c'est notre mouvement habituel, extase, le ravissement, le vol de l'esprit. La vive flamme de l'amour, la rencontre prodigieuse de l'Immaculée Conception et la nature divine de la Très Sainte Trinité lorsqu'elle scrute les profondeurs de l'Immaculée Conception, lorsqu'elle dit me voici, ça produit une déferlante, ça produit une capote, une victoire de la mort sur tout à l'intérieur de Dieu et à l'intérieur de tout ce qui existe, de prodigieuse, et qui nous transforme, qui marque notre cœur. Alors, ravissement, être emporté comme ça, dans un acte d'amour, faire, si, à force d'entendre le bruit fulgurant, tout puissant, donnez-en. De cette rencontre prodigieuse, eh ben, à force de ça, ben, notre cœur, notre âme et notre esprit prennent toutes les forces de la création et les emportent en nous par spiration à l'intérieur. Bon, ça, de faire ces actes-là, ce sont des actes qui sont errades, uniques, indivisible. À chaque fois qu'on le fait, on demande à Marie, on demande à Jésus, on demande à Saint-Joseph, on demande à Dieu de le prendre et de l'enfoncer dans l'indivisibilité de Dieu, Adonai et Rabat. Et ce qu'il y a d'amour à l'intérieur de nous dans l'acte que nous venons de faire, ce qui est gravé dans notre volonté profonde, notre cœur, capacité d'amour, va s'inscrire à l'intérieur de la divisibilité de Dieu. Ce qui est tout petit, tout petit, tout petit dans notre conception d'amour va devenir infiniment petit, il faut bien le dire, va devenir infiniment grand. Infiniment grand. Notre petit acte d'amour devient dans cette terme terminant de l'extase du ravissement et du vol de l'esprit dans les vives flammes d'amour, devient un acte qui est infiniment grand, où l'amour du Père se donne partout, dans son intérieur, toujours, à chaque instant, à chaque moment, éternellement. C'est ça le commandement de Dieu. Et à force de vivre de ça, ça devient notre est, mon je suis. Mon je suis, c'est un je suis d'amour. Et bien, à force de vivre ça, à force de faire ça, il y a une transformation. Une transformation, pas seulement une transfiguration, mais une substantiation et une trans-perfection, une trans-actuation dans l'acte pur. Et ça, le commandement de Dieu, c'est l'union, la vie unitive, l'ami. Souvent, on représente la vie unitive en disant, là, je vais prendre 20 minutes de vie unitive. Allez, je m'assieds, et comme madame de maintenant, je me mets dans le canapé, et je m'intériorise. Jusqu'à atteindre un moment de silence intérieur, d'une tranquillité. Mais le chat, il fait ça aussi. Mais non, l'acte d'amour, l'acte de la vie initiée avec Dieu, c'est un acte d'assomption. On dirait, c'est passer par l'adormition. Oui, parce qu'il faut passer par le cœur de Jésus, qui est tellement qu'il s'anéantit complètement et disparaît. Et du coup, il y a une assomption. On est assumé, et emporté à l'intérieur de Dieu. L'air de rien, ça a été tout ça, ça a été la vie de Saint-Joseph, hein, depuis sa conception. Saint-Joseph a été... Toute sa vie, ça a été ça. Toute sa vie. À la propagation du péché originel, sa réaction, ça a été... Non. Ça a été d'entendre, ça a été d'entendre ce bruit extraordinaire, fulgurant, tout-puissant, la supervenue du Saint-Esprit dans la rencontre de l'Immaculée Conception qui devait un jour émaner de lui, et la conception agréée de la mort du Père qui se répand dans tout ce qui peut être scruté à l'intérieur de la très sainte Trinité dans l'invisibilité arabe de Dieu. Cette rencontre prodigieuse, c'est face à la propagation de Béjamé, il a demandé, il n'a pas seulement demandé pardon, il a demandé l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est l'amour d'absolution. C'est l'absolution d'amour incarné. Alors il s'est tourné vers. Il a eu la vision, bien sûr, de toute son intelligence. Il a été quand même aussi. Et en même temps, hein, au moment de la propagation du péché originel, en même temps, il a vu, il a entendu son inscription dans le livre de vie et cette spontanéité qui m'a créé conception avec lui, hein, cette absolution qui devait engendrer la rédemption du monde. Et donc il s'est tourné, il a dit non, la propagation du péché originel, immédiatement dans la vastitude de son âme, dans son me voici, hein, voici, je viens vers l'Immaculée Conception. Et il a aspiré dans la vastitude de son âme embryonnaire, de son âme d'enfant à sa naissance. Il a aspiré, il s'est laissé spirer, il s'est laissé emporter dans les vives flammes d'amour. De la rédemption glorieuse du monde, que nous appelons l'Immaculée Conception, il aspirait à travers elle, il aspirait, il a respiré, il s'est englouti, il a disparu, continuellement il aspirait le hara de la nature divine de Dieu, du Dieu unique, ce qui est unique dans l'amour de Dieu, la peau. Aspirer la nature divine de Dieu. Il s'est laissé aspirer. Il est devenu pratiquement l'hypostase. Hein? J'aime bien penser ça, que Saint-Joseph est devenu la quatrième hypostase. Hein? Parce qu'en Dieu, il y a un, mais il y a trois personnes, trois hypostases. Et j'aime bien penser que, et oui, parce que dans le nom d'Elohim, écoute, Israël, il y en a. Le nom de lui, l'imprononçable. Il y en a quatre. Et j'aime moins penser sur ça. Que Saint-Joseph, c'est pratiquement hein, la présence de cette quatrième postasse d'amour. Elle respire à l'intérieur de son âme. C'est toute sa vastitude qui conjoint à la vastitude de l'amour, hein, de la peau. Et à l'intérieur de lui, il est aspiré. Et il aspire. Aspiration active, aspiration passive. Toute sa vie, c'est ça, de plus en plus, et pendant 19 ans. L'amour qu'il y a dans les. Et sans être vu, hein, les gens qui étaient à Nazareth, c'est le charpentier, ça. Ils n'ont rien vu du tout. C'est le 31 du mois du rosaire, le dernier jour de tous les mystères vivants, divins, immaculés, invincibles d'amour de Marie. Alors, Saint-Joseph, le 31, c'est la Jérusalem inspirante. Aspirer dans la Jérusalem de l'Église, nous sommes hein, ce revêtement continuelle, cette extase immaculée, et ce vol de l'esprit, la supervenue du Saint-Esprit, et responsabilité d'abord de Dieu. Et on écoute, et on n'est pas seulement en train de l'écouter, on s'y envole. Et ça fait que tous les amours qui sont unifiés là, ensemble, forment la créateur de Dieu dans notre conception de cette terre. Ah, et Saint-Joseph, c'est extraordinaire. Et à force de vivre ça, c'est toute sa vie intérieure, toute sa vie physique, toute sa vie extatique, toute sa vie d'humilité, et personne ne pouvait s'approcher de lui pour abîmer ça, hein? Personne. Rien. Et à tel point que cette transformation était tellement réalisée dans un mariage total de toute son âme et de toute matière possible d'investissement, d'amour, d'un principe de Dieu, que l'enrichissement était tel que il est rentré dans cette dans ce sommeil mystérieux qui n'a rien à voir avec Madame de maintenant sur son divan et le chat. Et du coup, Dieu a pris Saint-Joseph à ce sommet du mystère du rosaire 31, l'Église suppliante, toute la très sainte Trinité, dans l'unité Adonai, cette flux, ce flux. Il y a toutes les relations avec Saint-Joseph à son âge de 19 ans dans cette terre de mort qui est inscrite dans le livre de la Genèse, dans cet amour, celui qui a accompli le premier sur la terre, le commandement de Dieu d'une manière parfaite. Ça a provoqué un flux, toutes les relations ont été rétablies entre Dieu et et sous le nez du démon, sous la gueule de Lucifer, il est passé. Et hop, il a été assumé. Il a été assumé. On n'oublie jamais, il ne faut jamais oublier que le chemin d'un Ayarad, c'est Saint-Joseph d'abord. C'est le premier. Il a été assumé. Et sa tardéma, son ravissement, son extase, son ravissement, c'est ce sommeil mystérieux est en affinité parfaite avec le sommeil de Dieu dans le Christ lorsqu'il fait la transsépération universelle de la Jérusalem dernière. En affinité parfaite. Là, l'amour est donné à l'état pur et tous les efforts qu'on fait, etc., sont multipliés, transmultipliés, transactués surnaturellement, utilement, éternellement. Donc là, à ce moment-là, il a été assumé, mystère de l'Assomption. Il a été assumé à l'intérieur de Dieu, le Père, puisqu'il et cette inspiration mutuelle était indivisible. Du coup, Dieu a pu, et Saint-Joseph a pu disparaître pour créer l'amour dans la chair. D'aller voir quelle conception, son épouser, il a pu sortir de lui. L'immaculée conception. Et il y a une seule immaculée conception. Une seule, un rat. Ah, écoute bien ça, écoute. Revisiter notre conception, et la conception de toutes les conceptions humaines, et la conception de Jésus dans son humanité, et la conception de Joseph, lui aussi dans sa prédestination, aspirer de l'intérieur la nature divine de la première personne, de la Sainte Trinité comme époux. Voilà, ça, c'est ça, voilà. C'est ce commandement. Et on voit bien. c'est que c'est avec l'âme. Et c'est avec l'esprit. Et sinon, il n'y aurait pas de vie flatte d'abord, et il n'y aurait pas ce vol de l'esprit continuel. On est emporté et qui produit flamme sur flamme, amour sur amour, jusqu'à ce que cet admirable exercice d'échange, de production, où on ne sait pas lequel aime le plus, et en premier ou en dernier, répond, à un moment donné, les flammes d'amour sont si véhémentes que il y a comme un arrêt, cette dormition, et puis ce sommeil. Et la reprise de l'amour qui se fait dans l'Assomption de Joseph. C'est pour ça que ce qui t'a été engendré de lui dans l'Immaculée Conception, avec l'Immaculée Conception depuis sa conception, est tout le temps, en train de tout le temps à l'intérieur d'elle-même, à l'extérieur d'elle-même, dans tout son intérieur, dans tout son extérieur, c'est de l'Assomption continuelle. Mystère d'Ada. Mystère de l'Assomption, cinquième mystère glorieux. Tu ne peux pas séparer mystère de l'Assomption, cinquième mystère, dernier mystère du rosaire. Et Saint-Joseph, tu ne peux pas. Oui. Il faut apprendre à écouter. C'est vrai. On voit ça quelquefois dans le mariage, tu vois, l'homme et la femme, ils ne s'écoutent pas. Dès qu'il y en a qui parle, l'autre il parle aussi. Il s'écoute pas. C'est pas vrai? C'est frappant, quoi. Maintenant, il faut apprendre à écouter. Et nos enfants, apprennent à écouter. Alors, le royaume de l'amour, si il a brûlé, s'est inscrit pour l'éternité dans notre cœur, il fait qu'on est debout, les deux pieds sur terre, et qu'on peut partir immédiatement. C'est bon. Pardon, je suis un peu trop long. On va célébrer la messe, on va prier en ce moment. En ce moment, à Rome, il y a le pape. Et je sais pas pourquoi, le monde entier est parti, est à Rome en ce moment. Alors, je sais pas, le président de la Chine, le représentant des États-Unis, le représentant de. Enfin, ils sont 5 ou 6 chefs d'État. C'est une espèce de danse, là. Ils se préparent quelque chose, hein. C'est sûr. C'est sûr qu'il se prépare quelque chose. Il se retrouve là, hein, puis une espèce de comme on dit dans Louisa Pécaretta, une ronde. Une ronde, hein, une ronde.
La ronde
de la création, la ronde de la rédemption, la ronde de. Non, ils sont pas allés là-bas pour faire salon. Non, parce que les portes qui s'ouvrent devant nous, il va falloir être très attentif. Hein. Et les rois savent, les rois des nations savent que la trompette va sonner, hein, et qu'il faut écouter. Hein. Alors bon, et c'est tout ça, le dernier jour du mois du Très-Saint-Rosaire, la veille de la fête de la sainteté de Dieu, répondu, et c'est... Alors bon, il faut qu'on soit mobilisé. Et on est mobilisé parce que on les aime. On est mobilisé pour venir les visiter dans le profondeur de leur cœur. et pour voir l'amour qu'il y a dans leur cœur. Parce que cet amour, il ne serait pas dans leur cœur si Dieu ne leur avait pas donné. Ils n'auraient pas cette autorité d'amour si elle avait été donnée d'en haut. Tout. Et les rois de la terre, eh bien, on les aime. Et on va célébrer la messe pour ça aussi, c'est vrai. Avec le Saint-Père, dans les trois blancheurs. Je suis